1983, Riemann, père Philippe.
Comment, au niveau des sensibles propres, donc des qualités sensibles, il est possible de sortir du conditionnement donné par le domaine de la quantité qui suscite en nous un repli sur soi, une sorte de non à l'autre. Alors là, c'est tout le point de vue critique. Hein. Les sensibles propres sont l'aspect ultime de l'exister. Notre monde physique existe d'une manière ultime dans les sensibles propres. C'est là où il est parfaitement en acte. La lumière, la chaleur. Donc, la connaissance des sensibles propres, qui est la connaissance par la sensation, mais une sensation qui est liée à l'intelligence, me permet donc de rejoindre ce qui est en acte dans le monde physique. Et donc de rejoindre l'autre. Parce que ce qui est en acte, c'est ce qui sépare, nous le verrons au point de vue métaphysique de l'acte. L'acte sépare. Tant que je ne saisis pas ce qui est en acte, je ne saisis pas l'autre. Dans le conditionnement, je ne saisis jamais l'autre. Je me saisis dans mon conditionnement et je m'enlise dans mon conditionnement. Et dans mon conditionnement, je m'enlise et je ne saisis pas le roc. Dès que je saisis le roc, je sors de mon conditionnement. Dès que je suis dans les sensibles propres, je suis au-delà de mon conditionnement. Je suis au-delà des sensibles communs, qui, eux, restent dans le conditionnement. Donc l'intelligence qui se sert des sensibles propres peut seule atteindre l'autre. C'est très beau de voir ça, du reste. C'est intéressant parce que ça nous aide à comprendre le rôle exact de la qualité. La qualité me permet de saisir l'autre. C'est pas étonnant, puisque, je vous ai dit, la qualité, c'est la manifestation de la substance. C'est donc la manifestation de l'être. L'être se manifeste à travers ses qualités. Et donc, s'il se manifeste à travers ses qualités, c'est par là que je veux le saisir, en premier lieu. Pas seulement, mais c'est par là que je veux le saisir, en premier lieu. Quand vous vous manifestez, c'est fait pour qu'on puisse vous saisir. Normalement. Or, la qualité dans le monde physique n'est pleinement elle-même que dans les qualités, que dans les sensibles propres. C'est donc à travers les sensibles propres que j'atteins l'autre. Comment, au niveau des sensibles propres, donc des qualités sensibles, il est possible de sortir du conditionnement donné par le domaine de la quantité et des sensibles communs, qui suscite en nous un repliement sous soi, une sorte de non à l'autre, et expliquer que c'est la qualité de nos expériences sensibles qui détermine toutes les autres espèces de connaissances, que ce soit la connaissance imaginative ou intellectuelle ou affective. Et personnel, sans le dire, et le TST de la lumière, à moins que vous renvoyiez à des études déjà faites qui vous semblent le plus proche de la réalité en tant que connu sensiblement. Oui, je vois un peu. C'est le sensible propre qui nous met en contact direct et ultime avec la réalité autre que moi. C'est ça qu'il faut retenir. Voyez. Et donc c'est bien par le sensible propre que je suis directement en contact avec l'autre. Mais je suis en contact avec l'autre, pas par le sensible, mais par l'intelligence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'intelligence qui saisit l'autre. C'est l'intelligence qui pose le jugement d'existence en disant ceci est. C'est pas la sensation. Mais c'est par la sensation. Parce que la sensation me met ce contact immédiat. Alors là, évidemment, c'est toute la question critique des rapports entre la sensation et l'intelligence. Bon, je continue, si vous voulez, la question de la qualité pour mieux saisir. Qu'est-ce que c'est que la qualité ? Parce que nous étions arrivés à cela. Le TST de la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité ? La qualité demeure quelque chose qui n'est pas premier. Donc, quelque chose qui peut se comprendre, qui peut se formaliser en quelque sorte en ne regardant que cette forme secondaire. Je peux regarder la qualité en soi. Quand je regarde la qualité en soi, je tombe dans quelque chose d'abstrait. Blanc, blancheur. Et j'essaie de préciser ce qu'est cette qualité prise en elle-même. Ce n'est plus au niveau métaphysique. Je regarde la forme en elle-même. Et la forme en elle-même me montre que la qualité, c'est bien, en effet, quelque chose qui a son intelligibilité propre et qui est le domaine propre de la forme. La qualité détermine. La qualité détermine, elle spécifie mon intelligence, mais elle détermine aussi la réalité. Je ne peux pas dire plus. La qualité, c'est une forme. Je peux dire que c'est peut-être la forme prise dans toute sa force de forme. C'est-à-dire une forme qui s'impose comme forme. Et alors, de ce côté-là, je pourrais dire que la qualité la plus parfaite, c'est la beauté. C'est la forme qui se manifeste. C'est la forme dans son resplendissement de forme, dans sa splendeur de forme. La qualité, c'est bien la forme, parfaitement forme, donc la beauté. Beauté dans l'ordre sensible, beauté dans l'ordre spirituel. Il y a une parenté entre la beauté et la qualité, par le point de vue de la forme. La beauté, c'est la forme première. La qualité, c'est la forme première. Donc, il y a une parenté très forte entre la beauté et la qualité. Ça, je crois que nous pouvons assez facilement le comprendre. Et ceci s'explique par le point de vue de la forme. Vous voyez, c'est pour ça qu'au fond, la forme, je ne la comprends parfaitement que dans la beauté, et je ne la comprends parfaitement que dans la qualité. Mais je ne suis pas au niveau métaphysique, là. Je suis au niveau de la qualité prise en elle-même. Si je veux regarder la qualité au point de vue métaphysique, je regarde la qualité dans son exercice d'être. En tant que la qualité est porteuse d'être. En tant que la qualité est manifestation de la substance. Et alors à ce moment-là, je dis que la qualité est une disposition. Donc, vous voyez, je peux regarder, et ça, je crois que c'est important que nous comprenions bien ce point de vue-là. Je peux regarder la qualité de deux manières. Ceci, c'est propre à toutes les formes secondes, à toutes les modes d'être. Je suis en face d'un mode d'être, je ne suis pas en face d'un principe. Qui dit mode, dit toujours relatif à un principe. Vous habituez à ce langage. C'est vrai. Le mode est toujours quelque chose de second, donc quelque chose de relatif. La qualité est un mode d'être. Quand j'ai un mode d'être, j'essaie de voir, il est mode de quoi ? Il est mode de l'illusion. Flusien n'est pas un mode d'être. Flusien est arché dans l'ordre de l'être. Donc, c'est principe. Et c'est pour cela que Lousia est directement relié à l'être. Lousia, c'est l'être en soi, comme vous dira. C'est l'être pris en lui-même, ce qui est arché, il est promis dans l'ordre de l'être. Donc il n'est pas en référence à autre chose. Tandis que la qualité est un mode de l'être, donc elle est en référence à autre chose, au niveau de l'être. Hein. Mais je peux regarder aussi la qualité en elle-même. Quand je regarde la qualité en elle-même, je la regarde d'une manière abstraite, vous voyez. Je la regarde d'une manière abstraite, puisque la qualité ne peut être considérée en elle-même que d'une manière abstraite. Et il y a toujours dans la tête hein, blanc, blancheur. Si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Blancheur, c'est abstrait à partir de blanc. Je saisis la qualité en elle-même qu'à partir de la qualité mode d'être, c'est-à-dire la qualité existante. La qualité n'existe jamais par elle-même, n'existe jamais en soi. Elle existe toujours relative à un autre. C'est le propre de la qualité. Et ça, je peux le dire tout de suite, hein, c'est la conséquence immédiate une fois que j'ai saisi la substance comme principe. Quand j'ai saisi la substance comme principe, je saisis toutes les autres déterminations relativement donc à autre chose. Donc ce sont des modes d'être. La qualité est donc un mode d'être. Et donc si je saisis la qualité en elle-même, qu'est-ce qu'elle est? Je dis quelle est la forme. La forme qui se présente comme forme. La forme qui se présente comme forme, c'est donc la beauté. Il y a une parité entre la qualité et la beauté. Ça me semble assez net. Et au fond, d'une certaine manière, on peut dire que la beauté est dans la splendeur de la forme et donc la qualité par excellence. Au point de vue philosophique, je peux dire que la beauté, c'est la qualité par excellence, parce que c'est la forme, la splendeur de la forme. C'est la forme qui s'étale, la beauté. C'est la forme qui se manifeste. C'est la forme considérée en elle-même. Vous voyez, il y a trois choses qu'il faut regarder. Forme, qualité, beauté. Alors, par la forme, je vois le lien qui existe entre la beauté et la qualité. Et par la forme, j'arrive à comprendre que, en effet, la qualité peut être la manifestation par excellence. La splendeur, oui, la lumière, c'est curieux. Dans mon physique, la beauté, c'est la lumière. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est la lumière. Et ça, c'est vraiment la première forme, c'est considérée en elle-même. Considérée, donc, pas du point de vue métaphysique. Hein. Alors, je peux le considérer du côté artistique, je peux le considérer du côté physique, on peut le considérer du côté biologique, c'est toutes les considérations différentes. Hein. Parce que c'est la forme, considérée en elle-même. Et je la considère pour elle-même. Pas d'un point de vue métaphysique. D'un point de vue métaphysique, la forme, la qualité ne peut se comprendre que relativement à la substance. Et relativement à la substance, elle est donc un mode d'être, elle est disposition. C'est cette chose très curieuse que, sur laquelle j'avais insisté la dernière fois. Elle est disposition. Je ne dis pas exis. Je ne dis pas habitus. Tandis que si je considère la qualité en elle-même, la beauté, c'est un habitus. Et comme c'est curieux, c'est paralyse entre les deux. Du côté métaphysique, c'est la disposition. Du côté de la qualité en elle-même, c'est l'exis. Ça, c'est la qualité par excellence. Ça fait comprendre la différence entre les catégories et la seule métaphysique. Du côté catégorie, qu'est-ce qui est premier? C'est évident, c'est la forme en elle-même, c'est la qualité en elle-même. Parce que c'est ça qui est attribué. Du côté métaphysique, c'est la disposition qui est première. Vous voyez, là, c'est là on voit l'astuce d'Aristote. Parce que ça, on ne peut pas nier. D'avoir mis exis et diathesis, d'avoir mis habitus et disposition ensemble, ça prouve qu'il a compris qu'en effet, la qualité était le métaxu entre la métaphysique et l'esthétique. Entre la métaphysique et la considération de ce qui nous est donné immédiatement. C'est la qualité qui fait le passage entre les deux. Et ça, je crois qu'en effet, que c'est la qualité qui fait le passage entre la métaphysique et puis le point de vue proprement esthétique. Parce que le point de vue esthétique, c'est la beauté. Le point de vue esthétique n'atteint jamais plus que la beauté. Et c'est là l'erreur de Maritain au point de vue intuition poétique. L'intuition poétique atteint la beauté, mais n'atteint pas l'être, n'atteint pas la substance. Tandis qu'un métaphysique, par le point de vue non pas d'expérience, mais par le point de vue d'induction, va atteindre le principe. Et en atteignant le principe, on s'éloigne de la qualité, on la relativise. La métaphysique relativise la qualité. Et c'est ce qui explique la rogne profonde des artistes vis-à-vis de la métaphysique. Toujours un peu une rogne foncière, parce que dans leur domaine, ils sont premiers. Et puis voilà que la métaphysique relativise la qualité. C'est vrai qu'un artiste dans l'ordre de la qualité dira des choses étonnantes, si c'est un véritable artiste. Et il aura toujours la tentation de considérer que ce domaine de la qualité, c'est le domaine numéro un. Donc c'est le domaine principal. Alors voilà que le métaphysicien arrive et dit, ah, bon, la qualité, c'est une disposition. Donc, c'est relatif. Et donc, tout le domaine poétique est relativisé par le point de vue de la métaphysique. Alors, c'est très irritant pour l'artiste. Ça, je reconnais, il faut reconnaître. Hein. Le métaphysicien va se créer des haines. Hein. C'est toujours. Et c'est comme ça que le bon père Ramirez, qui était un dominicain de Salamanque, et un dominicain extraordinaire, encore de la vieille race, le Salamanque n'a plus comme ça. C'était un Bagnès qui revivait. Eh bien, quand le père Ramirez a quitté Fribourg, je n'ai pas connu longtemps, mais j'ai connu suffisamment pour qu'il puisse me dire ça, il est venu me dire, je vous demande de ne jamais diminuer la force de vos cours. Vous aurez la tentation de vous adapter. Ne diminuez jamais la force de vos cours. Adaptez-vous, mais ne diminuez jamais la force de vos cours. Restez au niveau métaphysique quand vous enseignez la métaphysique. Puis deuxièmement, puisque vous enseignerez la métaphysique et que vous aimez la métaphysique, vous serez haï. C'est pas agréable comme testament. Et on voit très bien, vous voyez, c'est ici qu'on le voit le mieux. C'est pour ça que je vous souligne. C'est ici qu'on voit mieux. Vous relativisez tout l'aspect esthétique. Lexis et diathesis. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est très important. C'est très important parce que on vit au niveau manifestation, au niveau esthétique. La plupart des hommes vivent au niveau esthétique. Et alors, au niveau esthétique, la métaphysique vient relativiser. Ce qui était premier devient second. Parce que la qualité demeure première dans le domaine esthétique, c'est la beauté. C'est intéressant parce que ça situe exactement où est la beauté. La beauté se situe du côté de la forme, donc du côté de la qualité, et non pas du côté de la substance. Je ne peux pas dire que la substance est belle. La substance n'a pas besoin d'être belle, elle est. Un principe n'est pas beau. Jamais un principe n'est beau. Ne peut pas se faire. Un principe n'est qu'au niveau de l'être. Il est au niveau du devenir. Il n'est pas au niveau de la forme. C'est la forme qui est belle. Et c'est la forme qui se manifeste à moi dans sa beauté. Donc, alors, la qualité est disposition parce qu'elle est seconde. Alors, si elle est seconde, elle est disposition parce qu'elle est relative. Elle n'est pas exis. Tandis que la qualité prise en elle-même, elle est exis. Et alors elle peut être tournée vers autre chose. Donc voilà le passage entre les deux. Alors, quand je dis que la qualité est disposition dans l'ordre de l'être, disposition de l'ousia, quand je dis disposition de l'ousia, je veux montrer justement ce rôle particulier de la qualité qui est de ramener les parties à l'unité. Donc, d'appliquer un ordre. Le rôle de la forme au niveau métaphysique, c'est d'ordonner. C'est le rôle de la forme. C'est d'ordonner. Au point de vue métaphysique, vous voyez. Elle ordonne toujours. C'est-à-dire qu'elle ramène le multiple à l'un. C'est ça, l'un. C'est ramener le multiple à l'un. Le propre de la forme, c'est de faire ce point de vue-là. Ce n'est pas donc un principe. C'est quelque chose qui présuppose une multiplicité qu'on ramène à l'un. Donc, la qualité est disposition de la substance. C'est ce qui explique comment Aristote, quand il parlera de la qualité dans le livre Delta de la métaphysique, dira que la qualité est diaphora. Ça aussi, c'est une expression intéressante. Elle est diaphora. C'est-à-dire, elle est différente. La qualité maintient les différences. La qualité réalise les différences. C'est le propre de la qualité. Oui, ça, c'est aussi très curieux. Elle est diaphora. Elle est différente. Pourquoi? Parce que, justement, elle fait le lien entre le monde invisible et le monde visible. C'est la qualité qui fait ce lien entre le monde invisible et le monde visible. Alors, parce qu'elle fait le lien entre le monde visible et l'invisible, elle est la diaphora, elle est la différence. Différence majeure. Oui. Si tout le rôle de la philosophie, c'est de saisir le lien entre le monde physique, le monde visible et le monde invisible, vous voyez, pas tout le rôle, mais un des aspects de la métaphysique, c'est donc là où on se sert de la qualité. La qualité est différente. Il y a des différences aussi au niveau de l'ousia dans les manifestations de l'ousia. Donc, disposition diaphora. Alors, dernier aspect de la qualité, c'est de montrer que la qualité, parce qu'elle est ce passage du visible à l'invisible, va être aussi une attente vis-à-vis de ce que représente le point de vue de l'art. C'est très curieux, hein? La qualité est vraiment, elle est vraiment le métaxu. Hein? Elle est vraiment le métaxu. Alors, ce serait très intéressant ici de se rappeler comment pour Platon, l'amour est métaxu. Parce que j'ai dit, la qualité est lumière dans le monde physique. Dans le monde des qualités intérieures, elle est amour. La qualité la plus grande, la qualité intérieure la plus grande, c'est l'amour. L'amour est qualité, hein? L'amour n'est pas substance pour nous. L'amour est qualité. Donc vous avez les deux qualités, la qualité du monde physique, la qualité visible, ça peut être visible et invisible, c'est bizarre, et la qualité invisible. Ce lien entre lumière et amour, c'est quand même très curieux, parce que vous retrouvez ça constamment, hein, le leitmotiv, Dieu est lumière, Dieu est amour, ça. Alors, c'est la chose très étonnante de la lumière visible et l'amour invisible. Et les deux extrêmes de la qualité. Les deux extrêmes de la qualité. Et des deux côtés, vous voyez que la qualité, parce que ça, vous prenez en vous-même, et des deux côtés, vous voyez comment la qualité est disposition. Elle fait le rayonnement de l'ousia dans le monde visible. Et l'unité du monde visible par la lumière, et elle fait le rayonnement du monde de l'ousia dans le monde intérieur, dans le monde invisible, par l'amour. Donc des deux côtés, elle ramène la multiplicité à l'unité. Et c'est ce double le rôle. Et ça, c'est intéressant à noter, parce que ça fait comprendre la disposition lumière, la disposition amour. Donc l'amour, la qualité métaxu, intermédiaire, diaphora.
elle monte la différence.
En ramenant la multiplicité à l'unité, elle monte la différence. Alors, et par là, je comprends comment la lumière, comment je veux dire, la qualité conduit vers l'acte. Si la qualité est forme divine, lumière et ciel et amour, je vois bien que la qualité ne peut pas être uniquement quelque chose qui se ramène à l'usine. Elle me fait sortir de l'usine. Et elle me conduit vers quelque chose d'autre, qui est le point de vue de la fin. Pourquoi ? Parce que ramenant la multiplicité à l'unité, je peux avoir deux principes d'ordre, le point de vue de l'usia et le point de vue de la fin. Alors ça sera plus complexe à bien saisir. Hein. C'est la question de l'ordre. Il y a un ordre formel qui est commandé par l'usia. Il y a un ordre dynamique qui est commandé par la fin. Il y a deux ordres différents. Eh bien, de fait, la qualité ramène la multiplicité à l'unité. Elle est donc l'ordre. Cet ordre peut se comprendre de deux manières, par le point de vue de la forme, en premier lieu, et elle peut se comprendre aussi d'une autre manière, par le point de vue de la fin. Autrement dit, la lumière n'est pas seulement forme, elle est aussi fin. L'amour n'est pas seulement forme, il est aussi fin. Et donc, il exige et il pose un nouveau problème, le problème de ce que représente la finalité. La qualité ne peut donc pas se ramener uniquement à la forme. Elle a quelque chose de plus. Elle m'ordonne vers ma fin. Alors c'est encore le rôle de métaxus. Le rôle de disposition. Elle dispose vers la fin. Elle dispose vers l'usia. Et parce qu'elle est diaphora, elle va disposer vers la fin. Vous voyez, c'est complexe, hein? Mais j'espère qu'au moins vous saisissez la complexité de ce rôle de la qualité qui ordonne. Que l'ordre peut se prendre du point de vue formel, donc du point de vue de la substance, ou l'ordre peut se prendre du côté de la fin. Alors, si l'ordre se prend du côté de la fin, on comprend que la qualité est quelque chose qui ordonne vers une ouverture qui n'est plus uniquement l'ousia. Nous avons souvent besoin d'un plus petit que nous. Eh bien, l'ousia, par elle-même, donne l'autonomie. L'ousia, liée à la qualité, et la qualité est ordonnée à l'ousia, va ouvrir l'ousia vers quelque chose qui n'est plus l'ousia, qui est le point de vue de la fin. C'est pour ça que le domaine de la qualité peut être utilisé de deux manières. La qualité peut être utilisée en vue d'une formalisation plus grande, et la qualité peut être utilisée en vue d'une ouverture plus grande. Très curieux ça. En vue d'une formalisation plus grande, vous aurez la qualité vertu, le pharisaïsme. Le pharisaïsme, c'est quoi, hein? C'est la vertu qui se referme sur elle-même en se délectant d'être vertu. Je suis vertueux. Vous voyez ? Et donc la vertu peut engendrer le pharisaïsme. C'est pour ça qu'il y a des réactions violentes en disant « Moi, je ne serai jamais vertueux, parce que je ne veux pas être un pharisien. J'en ai trop vu, et donc je ne veux pas. » Alors à ce moment-là, vous jetez promener la vertu. Ce n'est pas la vertu qui est pharisaïque, c'est une manière d'utiliser la vertu. Dans un repliement formel. Mais c'est vrai que la vertu peut favoriser le pharisaïsme. Mais la vertu peut être aussi la pierre d'attente vis-à-vis de la finalité. Elle peut être ordonnée à l'amitié. Et alors à ce moment-là, la vertu n'est plus pharisaïque. Elle me permet de sortir de moi dans un don. J'ai donc, vous voyez, cette chose très particulière de la qualité qui est plaque tournante. La qualité fait que je peux me retourner vers la substance et la qualité peut, je peux sortir de la substance vers la fin. Et ceci parce que la qualité va impliquer d'ordonner la multiplicité. Elle est disposition. Il faut réfléchir là-dessus. Mais je crois que c'est le propre de la qualité vu d'un point de vue métaphysique. La qualité vue d'un point de vue métaphysique, c'est le domaine de la forme. C'est bien évident, ça me semble très très net. C'est le domaine de la forme. Donc, c'est le domaine de la beauté, c'est le domaine de la lumière et le domaine de l'amour. Vous avez les deux qualités, visibles et invisibles. Or, vous comprenez bien, quand il s'agit de la lumière, que je ne peux pas seulement regarder la lumière d'un point de vue formel. La lumière finalise, actue. Je ne peux pas regarder l'amour, alors là c'est encore plus visible.
Donc, il y a ceci de particulier dans le domaine de la qualité, c'est que la qualité ne peut pas être regardée uniquement d'un point de vue formel, elle m'ouvre vers la fin. Le point de vue formel, c'est uniquement le point de vue, vous voyez, d'une structure, quoi. On regarderait le point de vue de la qualité qui me donne la possibilité d'être parfaitement moi-même. C'est vrai, un être qualitatif, c'est l'autonomie poussée dans le domaine sensible. Grâce à la qualité, j'ai une autonomie. Je suis un ouvrier qualifié d'autonome. Tandis que le gars de saule, c'est pas autonome. Il a besoin toujours de regarder l'autre, ce qu'il fait, et je limite. Tandis qu'au contraire, quand il est un ouvrier qualifié, il arrive à son autonomie, pas besoin d'un autre. Et même les autres l'agacent. Il aime mieux travailler seul. C'est le signe de l'autonomie du travailleur, ça. Le jour où il aime mieux travailler seul. J'aime mieux travailler seul. Alors j'ai des gars de sauce à côté de moi, très très bien, mais alors qu'ils m'obéissent, hein. Très bien. Mais j'aime pas du tout d'avoir un regard de quelqu'un qui me dit « Est-ce que je fais bien ça ?» Non, ça ne va plus du tout. Donc, il veut l'autonomie. Et c'est vrai, ça. Le point de vue de la vertu donne l'autonomie. La techné, l'art, me donne l'autonomie. La vertu me donne l'autonomie. Donc c'est très bien cette autonomie. C'est le reflet de la substance dans le domaine visible, dans le domaine de l'opération. C'est le reflet d'autonomie. La vertu me donne une autonomie. Ça c'est sûr. La vertu me donne une autonomie, la qualité me donne une autonomie. Si je ne suis pas assez qualifié, je suis dépendant. Je suis autonome, mais en même temps, la qualité me permet d'être relié à ma fin. Et donc d'être plus dépendant de la fin. C'est du reste la véritable autonomie. Alors il y a le passage de l'autonomie à la dépendance vis-à-vis de la fin. Et ça, c'est le domaine de la qualité. Elle est un tremplin. La qualité ne cesse pas, mais elle permet d'être finalisée. La qualité n'est pas la substance, c'est la disposition vis-à-vis de la substance, et la qualité est ouverture à la fin. Ça, Aristote ne le dit pas, il dit simplement la diaphora. Et c'est sans doute du côté de la diaphora, parce qu'on n'a pas étudié beaucoup ce que c'est que la diaphora. Qu'est-ce que c'est que la diaphora? Qu'est-ce que c'est que la différence? Alors, est-ce que la différence n'est-elle pas une pierre d'attente? Une ouverture. Une diaphora, c'est une ouverture vers quelque chose d'autre. Alors vous auriez, à ce point de vue-là, si ceci peut se tenir au point de vue philosophique et au point de vue métaphysique, Vous auriez donc les deux rôles essentiels de la qualité, disposition à la substance, ouverture à la fin. Disposition vis-à-vis de la substance, je comprends très bien, c'est l'ordre, le multiple qui travaille à l'unité. Et ouverture vers la fin, eh bien cette ouverture vers la fin, c'est justement le fait de faire que cette multiplicité unifiée va me permettre d'aller plus loin. Pierre d'attente. Pierre d'attente pour me lier à la fin. Et j'aurai bien les deux qualités dominantes, lumière et amour. Je peux peut-être encore préciser, toujours pour essayer de comprendre, qu'est-ce que c'est que la qualité dans le domaine philosophique. C'est pas commode, hein. C'est pas commode. C'est à la fois très simple, là on comprend tout de suite, hein. Là les exemples sont immédiats. Hein. Si vous réfléchissez sur lumière et amour, vous aboutirez à ça. Donc creuser, lumière et amour. Ça vous pouvez creuser de mille façons. Lumière et amour. Qu'est-ce qui fait l'unité de notre monde physique? C'est la lumière. Qu'est-ce qui fait l'unité de notre monde intérieur? C'est l'amour. C'est les deux principes d'unification de la multiplicité. La substance étant un principe radical d'unité, mais pas le principe à l'intérieur. C'est le principe radical, la substance. Tandis que la lumière, c'est le principe immanent. Et l'amour, c'est le principe immanent d'unification de la multiplicité. C'est par l'amour que toutes mes opérations, multiples et diverses, s'unifient, en fonction de l'amour. Et l'amour est présent à cette diversité, comme la lumière est présente à la diversité. Vous voyez, alors vous avez les deux principes d'unification, dans le domaine du multiple, dans le domaine de la diversité. Alors, à ce point de vue-là, on peut dire vraiment que c'est une disposition. La disposition, c'est l'un dans le multiple. Donc, c'est l'ordre. Puisque l'un dans le multiple, c'est l'ordre. Comme il y a deux ordres, un ordre statique, formel, et un ordre dynamique, pour le prendre d'une autre manière, l'ordre dynamique est en vue de la finalité. L'ordre statique est en vue de la forme. Vous avez donc ce propre, du point de vue de la qualité, qui est ce qui permet l'unification du monde physique et ce qui permet d'être ordonné vers l'enfant. Et ceci, c'est disposition diaphore. Donc on a deux mots-clés. Deux mots-clés, diathésis et diaphore, qui expriment ce que c'est que la qualité. Disposition, ousia, diaphore vers l'enfant. Vous avez deux réalisations, lumière et amour. Ça vous aide à comprendre, j'espère. Alors, on pourrait, en terminant, voir l'ordre des qualités par le point de vue de Lexis. Et je vais plutôt supprimer en disant diaphora. Tandis qu'ici, je vois bien Lexis. Si je regarde la qualité en elle-même, elle est Lexis. Donc, elle est habitude. L'habitus a lui-même deux aspects. L'habitus vient déterminer une puissance et l'habitus ordonne vers la fin. L'habitus est reçu dans un sujet, donc est reçu dans un être en puissance. L'habitus, en tant qu'il est reçu dans un être en puissance, détermine. Et l'habitus, en tant qu'il est ordonné vers la fin, oriente. Vous voyez les deux aspects, disposition, diaphora. Alors, je prends l'exemple de l'habitus le plus parfait. Ça va être intéressant de retrouver ça. L'habitus le plus parfait, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse. C'est l'habitus numéro un. L'habitus numéro un, donc la qualité des qualités, c'est la sagesse. La sagesse est-elle la synthèse de la lumière et de l'amour? Vous voyez, on pousse toujours, hein? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, elle est lumière, elle est amour.
La sagesse fait l'unité profonde entre la lumière et l'amour. Bon, si la sagesse fait l'unité profonde entre la lumière et l'amour, comme l'habitus suprême, la qualité des qualités, la dernière des qualités, c'est l'habitus, c'est la sagesse. La sagesse acquise, hein, pas donc du Saint-Esprit ici. C'est important de savoir ce que c'est que la sagesse, puisque quand je dis donc du Saint-Esprit, je présuppose savoir ce que c'est que cette habitus. Moi, je ne comprends rien du tout à l'habitus, au don du Saint-Esprit. Donc, cette sagesse, elle est reçue dans le point de vue du nous. Et elle est reçue dans le nous en tant qu'il est aimant. Donc, en tant qu'il est ordonné vers la fin. En tant qu'il est l'amour. La sagesse ne peut pas se séparer de l'amour. Donc, c'est reçu dans le nous. Ça qualifie le nous aimant, le nous ordonné vers la fin, vers le bien. Ça qualifie le nous et ça lui donne son ordre propre. Et la sagesse est principe de contemplation. Donc elle lie à la fin par la contemplation. Elle ordonne le nous d'une manière utile et elle donne la contemplation. Alors, revenons, vous voyez, et c'est vraiment là, le dernier point. Nous voyons comment la sagesse fait l'unité entre la lumière et l'amour. Et nous voyons comment la sagesse implique disposition et diaphore. La sagesse implique disposition. Disposition du nous. Quelle est la substance de la sagesse? C'est le nous. Puisqu'elle est ordonnée au nous. C'est le nous qui, de fait, est source de toute intellection. Ce n'est pas la sagesse. C'est le nous, la puissance, l'intelligence qui est là. Et la sagesse dispose le nous. Elle est vraiment à la disposition du nous. Elle ordonne. Elle ordonne tout ce qui est dans mon intelligence. Tant que je n'ai pas acquis la sagesse, mon intelligence n'est pas ordonnée. C'est par la sagesse qu'elle est ordonnée. Et elle est merveilleusement ordonnée. Et la sagesse est principe de contemplation, elle m'unit à ma fin. Elle m'unit au bien que je contemple. Parce que la sagesse est source de contemplation. Habitus contemplativus. Je ne peux pas définir la sagesse uniquement par le point de vue de l'intelligence. Je définis la sagesse aussi parce qu'elle est principe habitus contemplativus. Alors, est-ce que je trouverai là la diaphora? Qu'est-ce qui donne la noblesse ultime à l'intelligence? C'est la contemplation. La diaphora. C'est là où je suis en présence d'une intelligence distinguée, diaphora. Elle est ce qu'elle doit être. Tant qu'il n'y a pas la contemplation, mon intelligence est toujours un peu errante. Elle va toujours à droite ou à gauche. Elle est distraite. La diaphora, c'est juste l'inverse de la distraction. L'imaginaire me met dans un état de distraction, dans un état anarchique. L'anarchie dans mon intelligence provient de l'imaginaire, où je vais dans tous les sens. Et je ne sais pas dans quel sens il faut aller, ce qui est mieux. Je suis pris à droite, à gauche, vous voyez. Je n'ai aucune concentration et aucune intériorité. Je suis pris par le point de vue de l'imaginaire. Donc anarchique, un état anarchique. C'est vrai, ça, c'est que le monde d'aujourd'hui met l'intelligence dans un état anarchique, dans un état errant. Supprimer la contemplation. Le seul but, hein, si je me place d'un point de vue surnaturel, le seul but du démon, c'est de supprimer la contemplation. C'est le seul but. Le reste, il s'en fiche pas mal. Que vous vous amusiez en faisant telle ou telle chose, ça lui est égal. Le tout, c'est que l'homme quitte la contemplation. Parce que ça, c'est la chose qu'il ne peut plus supporter, il l'a perdue. Ah, est-ce que ce n'est pas la contemplation qui fait comprendre ce que c'est que la diaphora ? Au sens profond. Oui. Parce que là, je saisis justement mon intelligence comme intelligence qui se distingue du reste. Elle est diaphora. Elle se distingue, elle se sépare du reste quand elle contemple. Oui.
Pourquoi à l'habitude, si vous avez mis puissance ?
Oui, puissance, c'est l'intelligence, le nous. Oui. L'habitus est reçu dans la puissance. L'habitus vient déterminer un état potentiel. Parce que si l'intelligence était parfaitement en acte, elle n'aurait pas besoin d'habitus. Il n'y a pas d'habitus en Dieu. Nous avons besoin d'un habitus. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas reliés à notre fin. Si nous étions substantiellement reliés à notre fin, nous n'aurions pas besoin d'habitus. Alors vous retrouvez dans l'habitus, vous voyez, le point de vue du pétaxu, hein, l'intermédiaire. L'habitus est un intermédiaire, quelque chose qui me permet d'être uni à ma fin. Alors elle vient déterminer la puissance et elle m'oriente vers ma fin. Et pour essayer de trouver le double mouvement, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, le double mouvement de la qualité. La qualité m'apparaît complètement simple, la première rue, mais elle n'est pas simple du tout. C'est de l'ordre du métaxu. C'est de l'ordre vraiment de ceux qui... Je ne peux pas m'arrêter aux qualités. Je serai pharisien, ou je serai stoïcien, ou je serai je ne sais pas trop quoi, n'est-ce pas, contentement. De... On se contente de soi-même quand on s'arrête à la qualité. C'est la plus grande des tentations pour un être vertueux. C'est d'être content de lui, que voulez-vous. Après tout, je vaux aussi bien que ce publicain, n'est-ce pas, ou je vaux aussi bien que lui. Je vaux pas mal. Pas si mal, il vaut tant, vous savez, quand on dit ça. Première impression au Canada, quand je voyageais à Montréal, alors voyageais un bon, avec un bon père dominicain qui me faisait voir les autres, alors il vaut tant celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je me suis tué parce que je voulais être poli, alors je me suis tué. Mais au bout d'un certain temps, j'ai compris. C'était la qualité. Et ça, c'était la qualité économique. Il gagne tant, il vaut tant. Vous voyez, à ce moment-là, vous vous arrêtez sur la valeur. Alors, ce serait toute la philosophie des valeurs qui devrait regarder là. Alors, est-ce que la philosophie des valeurs, ce n'est pas répliquer sur la qualité, supprimant la finalité? Parce qu'au fond, c'est ça. Ne serait-il pas le pharisaïsme philosophique de la qualité au dépens de l'humanité? Je réduplique sur ce qui est métaxu, sur ce qui est intermédiaire, sur l'exis. On voit la grandeur de l'exis et le danger de l'exis. C'est bien évident, c'est que dans la mesure où j'ai un habitus, que je vaux quelque chose. C'est-tu un ouvrier qualifié. Donc un ouvrier vaut quelque chose à la mesure même où il a un exis. Il a acquis ça. Il a acquis cet habitus. Donc il vaut quelque chose en fonction de son habitus. Et le très grand danger, c'est qu'il s'arrête à ça. Et qu'il ne voit pas que cette qualité, c'est pour être plus finalisé. Et donc d'être plus dépendant. Et ne pas regarder le point de vue de l'autonomie.